chronique rebelle aujourd'hui avec du cinéma et des livres. Put Your Soul on Your Hand and Walk, un film de Sepide Farsi. Disco Africa, une histoire malgache, un film de Luc Razana Johanna. Panopticon, un film de Georges Sikarulidze, c'est un entretien avec le réalisateur. Continental 25, un film de Radu Jud. Rentrée des livres, intrigue de Simon Tremblay-Pépin chez Lux, éditeur. Devenir fasciste, ma théorie de conversion de Marc Fortier chez Lux, éditeur. Mauvaise fortune de Fano Loco aux éditions Nada. La grande fédération démocratie directe et vie fédérale de Pierre Banse aux éditions Noir et Rouge. Et à nouveau un détour par le cinéma avec un film restauré par Camélia, TWST, Things We Said Today, de Andrei Ujica. Et la 18e édition du cinéma européen du film fantastique de Strasbourg, qui se déroule du 26 septembre au 5 octobre. Soul on Your Hand and Walk, un film de Sepide Farsi qui précise « Put your soul on your hand and walk » est ma réponse en tant que cinéaste au massacre en cours des Palestiniens. Un miracle a eu lieu lorsque j'ai rencontré Fatem Hassona. Elle est devenue mes yeux à Gaza où elle résistait en documentant la guerre. Et moi, je suis devenue un lien entre elle et le reste du monde depuis sa prison de Gaza, comme elle le disait. Nous avons maintenu cette ligne pendant presque un an. Les bouts de pixels et sons que l'on a échangés sont devenus le film. L'assassinat de Fatem le 16 avril 2025, suite à une attaque israélienne sur sa maison, en change à jamais le sens. Peut-être que j'annonce ma mort maintenant, avant que la personne en face de moi ne charge son fusil de tireur d'élite et termine son travail, pour que je finisse. Silence. Ce sont les mots de Fatem Hassona dans un long poème qui s'intitule « L'homme qui portait ses yeux ». Un poème qui sent déjà la mort, mais qui est plein de vie aussi, comme l'était Fatem. Jusqu'à ce mercredi matin, avant qu'une bombe israélienne ne la fauche, elle et toute sa famille, réduisant la maison familiale en poussière. Elle venait juste d'avoir 25 ans. Put Your Soul on Your Hand and Walk, de Sepide Farsi, est un film bouleversant qui témoigne de l'enfer imposé à tout un peuple qui n'aspire qu'à la paix et à la vie, bien qu'il soit menacé quotidiennement depuis bientôt 2 ans par une armée attisée par la propagande haineuse de gouvernements fascistes au pouvoir en Israël. Dernièrement, on a pu lire et entendre des rescapés de la Shoah exprimer leur tristesse et leur révolte devant les discours du gouvernement sioniste qui, au nom et au prétexte des millions de personnes assassinées dans les camps de la mort durant le régime nazi, utilise l'arme du génocide par la faim, le manque de médicaments, les bombardements, les humiliations. Et cela avec l'assentiment de nombreux gouvernements occidentaux qui continuent les livraisons d'armes à Israël. Les journalistes étrangers sont interdits à Gaza. Alors, des journalistes gazaouis, des photojournalistes comme Fatem, ont témoigné de la situation, de cette guerre faite à une population sans défense. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi cette interdiction de la presse étrangère? Pourquoi ces assassinats ciblés de journalistes? De même que le film des 22 cinéastes gazaouis From Ground Zero témoigne d'un cinéma d'urgence, Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi installe une proximité avec Fatem que l'on sent lasse et angoissée au fur et à mesure de l'amplification de l'agression israélienne. Elle, la prisonnière d'un territoire sous les bombes, sourit cependant lors de ses rencontres et du partage avec Sepideh Farsi, qui est interdite de retourner dans son pays, l'Iran. Pour ajouter à cet échange entre les deux femmes, les photos extraordinaires de Fatem Hassona, les regards vers la caméra, le décor en ruine où l'on imagine des corps toujours ensevelis, les souffrances et la force du peuple. Sepideh Farsi revient sur la genèse du film. J'ai éprouvé le besoin de faire entendre la voix des Palestiniens, qui était presque totalement absente du récit de ce conflit dans les médias, depuis le début. Je suis partie au Caire en espérant pouvoir entrer à Gaza en passant par Rafah, mais c'était impossible. J'ai donc commencé à filmer des réfugiés palestiniens arrivant juste de Gaza. Jusqu'au début d'avril 2024, certains pouvaient encore sortir en payant 8 000 $ par personne. J'ai été accueillie par une famille gazaoui et l'un de ses membres, Hamad, m'a parlé d'une amie photographe qui vivait dans le nord de Gaza. Très vite, l'idée de faire un film à distance avec un portable s'est imposée à Sepideh Farsi, d'autant qu'elle avait déjà réalisé un film ainsi, Téhéran sans autorisation, en 2009. Après novembre 2024, ce que j'avais déjà recueilli durant les 200 premiers jours était suffisamment riche pour bâtir la structure du film, dit-elle. J'avais commencé le montage, je n'arrivais plus à gérer mes émotions et mon énergie entre nos discussions. Ce qui se passait sur le terrain à Gaza et les heures passées seules sur l'écran du montage avec les rushs. Et puis, Fatem, de plus en plus souvent, avait des moments de désespoir ou de faiblesse physique, comme elle le décrit dans le film. J'ai donc cessé d'intégrer les nouveaux entretiens au montage. Mais après l'annonce de son assassinat, ajouter notre dernière conversation m'est apparu comme une nécessité. Être photographe était ce qui lui importait le plus. Mais elle écrivait aussi et elle chantait. J'ai essayé de conserver les traces de toutes ses facettes. Notamment, dans une école transformée en abri, elle organisait des ateliers d'écriture avec les enfants pour parler de leurs traumas. Elle les aidait à formuler ce qui leur était arrivé. Et bien sûr, elle avait aussi ce côté militant de revendication de son identité palestinienne. Être photographe était inséparable à ses yeux de l'impératif de capter le génocide en cours. Dans le film, en parlant de la mort et de la violence imposée, elle dit « We're used to it, but we'll never get used to it. » On y est habitué, mais on ne s'y fera jamais. « Put your soul on your hand and walk » était la phrase que Fatemeh Hassona disait lorsqu'elle sortait de son abri pour saisir les images de Gaza et de sa population. « Put your soul on your hand and walk » de Sepideh Farsi au cinéma le 24 septembre.
كلمات بتمر على بالي كلمات تمر على بالي أيام وسنين بتمر صفيت بالليل حالي وعرفت طعم المر طعم المر لحالي كلمات بتمر على بالي بتمر على هدية من قلبي هدية السلام هدية السلام السلام للشر علمتني الناس بتموت بس الحب والله بيدوم لو بإيدي السلام يا عيني عالسلام يا روحي عالسلام آه عالسلام.
Disco Africa, une histoire malgache, un film de Luc Razana Johanna. Après avoir réalisé plusieurs courts-métrages et co-réalisé un documentaire présenté dans des festivals du monde entier, le réalisateur malgache Luc Razana Johanna réalise un long-métrage « Disco Africa, une histoire malgache ». Si le film se passe aujourd'hui, il est cependant tourné vers les années 1970 où les luttes pour en finir avec le colonialisme et instaurer l'indépendance des pays africains soulevait l'enthousiasme des peuples opprimés. Un temps où, parallèlement à de grandes figures, l'art du coup s'exprimait, libéré des codes de la colonisation. Un élan émancipateur et une prise de conscience tous azimuts qui soulevait les enthousiasmes et la créativité. Madagascar aujourd'hui, c'est bien autre chose. Le film commence dans une mine illégale de saphir. Kwame et un ami d'enfance tentent leur chance en fouillant la boue pour trouver les pierres précieuses. L'endroit est dangereux, même de nuit, car il est sous contrôle de milices qui pourchassent tous les clandestins et n'hésitent pas à leur tirer dessus. Suite à la mort de son ami, atteint par une balle lors d'une recherche nocturne, Kwame retourne dans sa ville natale, retrouve sa mère, d'anciens amis, mais aussi la corruption qui gangrène le pays. Cherchant du travail, il rencontre par hasard un autre ami qui visiblement doit sa fortune au trafic de bois précieux et qui lui propose de participer à son business. Tout d'abord séduit par la facilité, mais également par l'envie de sortir sa mère de la précarité, il se dit « pourquoi pas ?» La mémoire de son père, décédé durant sa petite enfance, surgit lorsqu'un ami proche de la famille lui remet son héritage en quelque sorte. Les enregistrements de son père, artiste et interprète connu pour ses chansons au contenu révolutionnaire. Kwame les écoute en boucle et peu à peu, les chansons éveillent sa conscience. Hanté par la vision de son ami mort dans la mine, qui semble lui dire qu'un mort ne trouve la paix qu'enterré décemment dans sa terre, il veut avant tout retrouver l'endroit où le corps de son père a été jeté après son arrestation et son exécution. Sa mère, elle, reste silencieuse, craignant que son fils disparaisse à son tour. En peu de mots, on comprend son traumatisme et son angoisse. Aujourd'hui, explique Luc Razana Johanna, pour de nombreux malgaches, s'en sortir signifie devenir riche, avoir une belle voiture et vivre comme les Occidentaux. À l'inverse de cet avenir proposé par la télévision et les réseaux sociaux, j'ai voulu que Kwame soit amené à fouiller dans l'histoire de son père et qu'il renoue à travers ce processus de deuil avec le désir de libération présent dans la musique des années 1970. Là encore, il ne s'agit pas d'étudier la structure des inégalités de façon abstraite, il s'agit pour Kwame de faire face à sa douleur, d'écouter ses musiques, de se laisser pénétrer par elle et ainsi d'honorer la mémoire de son père. Grâce à la fiction, Luc Razana Johanna crée un personnage tout à fait actuel, pris dans la spirale des ignorances et des difficultés vécues par les jeunes aujourd'hui. Kwame ne tient pas le rôle d'un héros, c'est plutôt un garçon fragile et tourmenté par les idées d'injustice sociale et d'impunité, sans toutefois encore les analyser. D'où l'importance de la musique, dont l'influence est essentielle dans la prise de conscience de Kwame. Une musique qui rappelle le bouillonnement lors des mouvements indépendantistes et qui renoue avec l'histoire populaire malgache, malgré le déni et les inégalités augmentant partout dans le monde. Face à ce constat, ajoute le réalisateur, nous ne pouvons plus rester immobiles et attendre. Pour ma part, c'est à travers le cinéma, la fiction, que j'ai cette sensation de pouvoir agir, de pouvoir lutter face à ce qui semble inévitable. À travers ce film, je souhaite enfin redonner une certaine fierté à mon pays en partageant une histoire, un récit qui nous appartient. Je crois que le cinéma africain, le cinéma malgache, est capable de partager le regard que nous portons sur le réel et que cela participe à la diversité du monde. Disco Africa, une histoire malgache, un film engagé qui retrace et rappelle l'élan d'indépendance qui a soulevé l'Afrique, porté par une interprétation superbe de naturel. Disco Africa, une histoire malgache, de Luc Razana Johanna, à voir au cinéma le 24 septembre. Panopticon, un film de George Sikaruladze. C'est un entretien avec George Sikaruladze. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la Géorgie indépendante des années 1990 était fragilisée économiquement. À cette époque, et jusque dans les années 2000, la Géorgie en tant que pays et les Géorgiens en tant que peuple ont survécu en grande partie grâce aux mères géorgiennes de cette génération qui ont décidé d'aller travailler à l'étranger pour subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd'hui encore, une grande partie du budget annuel de la Géorgie provient de transferts d'argent de l'étranger et ce sont principalement les femmes géorgiennes, les mères géorgiennes, qui s'en chargent. Après l'Union soviétique, des gens très instruits, titulaires de masters, de diplômes, etc., ont dû partir dans un nouveau pays dont ils ne parlaient pas la langue et se sont retrouvés à s'occuper de personnes âgées ou d'enfants en bas âge, à devenir des nounous, des bonnes, etc. Je parle précisément de mères, car les pères de cette génération sont devenus une sorte de génération de pères défaillants. C'est pourquoi dans le film, il n'y a pas de figure paternelle exemplaire. Par exemple, la châle amie de Sandro va jusqu'à dire « Mon père est mort pour moi ». Lana, étudiante et danseuse dans un nightclub pour subvenir aux besoins de son père. Le père de Sandro s'en va. C'est vraiment un monde de femmes qui prennent les choses en main. Sa grand-mère, sa mère, la mère de la châle. Le père de Sandro prend en effet la tangente et décide de devenir moine orthodoxe. Une fuite devant ses responsabilités concernant l'éducation de son fils, encore adolescent et fragile. Sandro est ainsi lâché dans une société post-soviétique, aux prises avec un retour forcené à la religion, et le voici se démenant, sans repère, sans présence paternelle, tentant de trouver sa place entre l'idée inculquée de la religion, sa jeune virilité, le rejet du père et son besoin d'amour. L'entretien avec Georges Sikaryidze s'est tenu dans le cadre du Festival international du film méditerranéen Cinémed en octobre 2024. C'est un entretien choral où il revient dans un premier temps sur la genèse de Panopticon.
So the story came about because I wanted to write something that had to do with 2 years of my life when I was 16, and I wanted to talk a little bit about my experiences growing up in Georgia, which was very challenging on many levels. And so, you know, tradition of first film, I felt maybe it's a good idea to talk about my teenage, adolescent life. So that was the original point of departure. And then after that, I started to add elements to the story, to fictionalize it, to create distance between myself and the story. Yeah, but the idea really was to capture these 2 years, the very decisive 2 years of life.
En fait, l'idée m'est venue tout d'abord parce que je pensais qu'il serait intéressant d'explorer une phase spécifique de ma propre adolescence en Géorgie, en gros de l'âge de 16-17 ans. Il y a eu 2 années où j'ai eu des enjeux particuliers, des difficultés particulières à surmonter. Et donc, j'ai trouvé que c'était un thème intéressant à explorer. Peut-être que c'est une sorte de tropisme du premier film de vouloir revenir sur sa propre vie. C'était en tout cas mon intention de départ. Et puis, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'y intègre des éléments fictionnels pour en faire une histoire à part entière et m'en détacher un peu moi-même. Et c'était voilà, ce moment décisif de mon existence que j'ai voulu mettre en histoire.
Puisqu'on parle justement de votre adolescence, je voulais vous poser, en fait, j'ai deux questions. Première question, c'est par rapport à vous, si vous aviez eu cet attrait par rapport à l'extrême droite et par rapport à cette espèce d'ultra-violence qui existe par rapport aux jeunes, par rapport au virilisme, etc. Et la deuxième question, c'est qui est liée aussi, parce qu'on voit tout le générique des 400 coupes, Et donc, je voulais savoir aussi si c'était un aspect de votre adolescence entre cette recherche de la sexualité et de du virilisme et en même temps le côté imagination, c'est-à-dire évidemment qui est montré dans les 400 coups de Truffaut.
The first question, no, because when I was growing up, we didn't have these far-right movements. But when I was writing the script in 2018, 2019, during this time, Georgia saw the rise of these far-right movements. And at the time, the way I worked with the script as I was writing the story, things were happening in Georgia and they were making their way into the story because I wanted the story to really be timely and happen in contemporary Georgia. So that's where that idea came from. And I think it makes sense because a lot of boys who are seeking the approval of their fathers, they find a sense of belonging in these kinds of groups.
Pour la première question, non. Moi, je n'ai pas été attirée par ces mouvements, tout simplement parce qu'ils n'existaient pas au moment où moi j'étais adolescent. Mais comme je disais, quand j'écrivais l'histoire, c'est-à-dire en 2018-2019, je tenais à ce que ce soit une histoire contemporaine, que ça reflète la Géorgie de l'époque où j'écrivais. Et puis, petit à petit, il y avait des événements, des réalités de la société géorgienne qui se sont un peu immiscées dans mon récit à mesure que j'essayais de la rendre actuelle. Mais ça, il me paraît que c'est assez cohérent, finalement, puisqu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui cherchent l'approbation de leur père, qui trouvent leur sentiment d'appartenance dans le fait d'adhérer à des mouvements de ce type. Donc ça collait au personnage de Sandro.
For the second question, when I was 20, I think I saw 400 Beaux, Le 400 Coups, for the first time, and I was very moved by the film. So I thought, okay, here is someone making a first film about his life. And it works. Maybe I can try to make films too. And then I have a long story with this film because I was writing the script in a residency in Paris. And when I arrived the first day, I went for a walk. And in the neighborhood, I found a plaque that said François Truffaut lived here as a child. And many scenes of the film, Le 400 Coups, were filmed on Rue des Martyrs and around. Later, when I came here with a short film, we pitched the film and we won the prize of Cours Roulant. With that prize, we went to Moulin d'Ondé, continued to write the script. And they told me on the first day that, okay, here's a screening room, here's another room, this is the dining room, and Truffaut used to stay here. That evening, I went to dinner. When I was coming back, I looked inside the screening room and they were showing Le 400 Coups. So there were many connections like this. It felt right to put the film as an homage, as a feeling of gratitude in the horror film.
En fait, j'ai vu Le 400 Coups moi-même la première fois quand j'avais 20 ans. J'ai été très touchée par ce film que j'ai trouvé très beau et je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui fait un premier film en racontant sa propre enfance. Donc ça a marché. Donc peut-être que moi aussi, je pourrais faire ça. Je pourrais faire un premier film qui relate ma propre jeunesse. Et puis l'histoire avec Le 400 Coups et avec Truffaut ne s'est pas arrêtée là, puisque quand j'étais en résidence à Paris pour écrire mon scénario, je suis arrivée donc dans cette résidence et je suis allée me promener dans le quartier et en arpentant la rue des Martyrs, tout ce quartier, je suis tombée sur une plaque qui disait que Truffaut avait vécu là enfant et que de nombreuses scènes des 400 coups avaient été filmées dans ce quartier-là. Le court-métrage s'est fait, je suis venue le présenter ici et j'ai gagné, donc on a pitché le projet de long-métrage ici à Montpellier et j'ai gagné ce prix du cours au long. Et après, je suis allée écrire le scénario au Moulin d'Andé. Et en arrivant au Moulin d'Andé, on me dit, bah voilà, les locaux dont vous disposez, il y a une salle de projection, il y a la salle de travail et Truffaut était là et travaillait là. Le soir, quand je rentre, je passe la tête dans la salle de projection et il passait Le 400 coups. Donc ça a été comme ça un accompagnement au long cours de tout mon travail et donc je trouvais que c'était juste de rendre hommage à Truffaut à travers ce clin d'œil de ce cheminement que j'ai fait avec lui.
Pourquoi ce titre Panopticon?
There are two answers. One is honest. It's what happens when you use a title to be a working title while you write the script, and then it becomes the title because everyone gets used to it. But as I was writing, I thought I'll use Panopticon as a title to remind myself that this film should be about larger things than just this character. This film should be maybe about society, and so it was a reminder for me to work and remember the larger scope. I think Foucault himself did not write about religion, maybe because he was raised strictly to be Catholic, but so he didn't really talk about it. And yet I think that the structure, the mechanism of panopticism applies perfectly to the way the church works in Georgia and elsewhere, because the film is very much about seeing and being seen. It made sense to keep the title.
Alors j'ai deux réponses, je ne sais pas si laquelle des deux vous voulez, celle qui est honnête ou celle qui fait partie de la légende du film. C'est ce qui se passe en fait quand vous vous donnez un titre provisoire qui est un titre de travail et qui finalement colle tellement au projet pour vous et pour les autres que ça devient son titre définitif. En tout cas pour moi, dans la phase d'écriture, si j'ai donné ce titre de Panopticon, c'est parce que je ne voulais pas perdre de vue à mesure que j'écrivais de la dimension plus large, du fait qu'il ne s'agissait pas seulement de ce personnage-là, de ce récit de vie-là, mais qu'il y avait quelque chose de plus général qui décrivait une société tout entière et des enjeux plus larges et moins individuels. Par ailleurs, la dimension qui me paraît intéressante, c'est que quand Foucault a développé cette idée de la panoptique, il ne parlait pas de religion. Il n'a en réalité jamais traité directement de la religion, tout simplement sans doute parce qu'il était élevé en un bon catholique et que ce n'est pas ça qu'il voulait remettre en question. Mais le mécanisme de la panoptique est quelque chose qui s'applique parfaitement à la religion, en Géorgie et ailleurs, mais en tout cas ce que je voulais dire du rôle omniprésent et peu visible de la religion dans la société géorgienne s'appliquait parfaitement à ce schéma-là. Et comme c'est un film qui traite de la question de voir et d'être vu, il me paraissait que finalement ça collait très bien à ce concept.
Le traitement de la religion est très important, et notamment avec la scène qui est un peu ubuesque, où il y a une sorte d'échange entre la croix et une clé USB où se trouve notamment porno. Qu'est-ce que vous diriez de la religion dans ce pays? Est-ce que c'est une superstructure de la société? Au fond, elle divise. Il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Vous en avez fait un des moteurs du film, ou est-ce que c'est un thème parmi les autres?
I don't know why, but so far with the short films that I've made and this first feature film, all have an element of religion. When I was younger, I used to also go to church. It was a society around me in Georgia, so everybody went. Now I don't anymore. And yet, films that I have made so far are all about religion. I remember reading once that Orson Welles said about Louis Buñuel that Buñuel was a Catholic only in a way an atheist could be. And I like that a lot. You know, so for me, the religion in Georgia is one aspect and the church is another. The church has largely damaged religion. The church is a very political entity, and the way they meddle in politics is actually quite pornographic. So, unfortunately, the separation of church and state has not really taken place in Georgia. If you're making a film that takes place in Georgia, I think that it's inevitable that religion, or the church, really, becomes a part of it.
Je sais pas pourquoi, mais jusque-là, tous les films que j'ai faits, tous les courts-métrages et ce premier long-métrage ont à voir avec la religion. Il se trouve que moi-même, j'allais à l'église étant petit, parce que je baignais dans une société où tout le monde le faisait, ça fait partie des pratiques communes, et maintenant je n'y vais plus. C'est une dimension qui est de toute façon présente, et ça me fait penser à ce que Orson Welles disait de Buñuel. Il avait dit qu'il était catholique d'une façon dont seul un athée peut l'être. La structure est bizarre en français. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Il se trouve qu'en fait, la présence de la religion, en fait, je sépare vraiment l'église de la religion. Quand l'église s'immisce, l'église est un fait hautement politique, en tout cas en Géorgie, et la façon dont elle s'immisce dans la politique est assez pornographique. La séparation de l'Église et de l'État n'ont pas eu lieu en Géorgie, et donc c'est assez spontanément et naturellement que quand vous traitez d'une histoire géorgienne, l'Église y apparaisse quelque part, ou la religion.
La première séquence qu'on voit dans le film, est-ce qu'elle a toujours été la première séquence dans le scénario pour nous montrer un jeune homme mal dans sa peau, physique assez gras, plein de tics, les mains baladeuses? Est-ce que vous n'avez pas eu peur que le spectateur le rejette?
Would it help if he was handsome?
Est-ce que s'il avait été beau, ça aurait changé les choses?
Yes, it was the first scene I wrote, and I think that the real answer is it was more honest to keep that scene in the beginning of the film instead of making you fall in love with this character and then show you how he behaves. So it felt, there were two versions of the edit of the film, but finally it felt right to start with this, to tell you right away what he does, and then work backwards to see if we can understand what is going on. But it's tricky because you also don't want to create this feeling of redemption. So it's a very fine line.
Oui, c'est comme ça que j'ai écrit dès le départ dans le scénario. C'était la première scène parce que je trouvais que c'était plus honnête de vous donner déjà à voir son mode de fonctionnement, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, avant de vous le rendre charmant et que vous tombiez amoureux de lui, que vous tombiez sous son charme. Je trouvais plus intéressant d'emblée de montrer ce qu'il faisait et éventuellement après essayer de creuser pour comprendre d'où ça venait. En même temps, bon, il y avait deux montages possibles, hein, même si l'écriture s'est faite dans ce sens-là, il y a eu deux montages possibles et finalement j'ai trouvé plus intéressant de m'en tenir à la version écrite. Le risque que je prenais, c'était celui de la rédemption. Je ne voulais pas non plus tomber dans un schéma de rédemption, donc il fallait vraiment naviguer de façon très précise pour partir dans une structure de ce type.
Personnage féminin, danseuse, petite amie, la mère. Putain, que au début de votre scénario, les femmes étaient importantes pour vous.
They were very important. I thought it was really nice how through their actions they showed Sandro the right way, the path. In my personal life, I was raised by my grandmother, my mother, and my sister. So it just felt very natural to have the presence of. I wasn't planning three characters to match the three women that have raised me, but it's just worked this way, and it made sense to me that in the world where male characters or father figures are absent or incapable, that he finds a connection with these female characters who show him the right path.
Ce personnage féminin sont très importants dans la façon même l'histoire évolue, puisque c'est elle qui montre le chemin à Sandro à travers leurs actes, tout simplement de la façon dont elle se comporte. Il se trouve que moi-même, j'ai été élevée par ma grand-mère, ma mère et ma sœur. Donc il me semblait assez naturel que ce soit les femmes qui le guident, sans pour autant avoir cherché à créer trois personnages féminins qui collent aux trois femmes qui m'ont élevée, mais dans un milieu où les figures paternelles, les figures masculines sont absentes ou défaillantes, c'était assez juste et normal que ce soit les femmes qui nous fassent avancer.
La dernière scène ne parlait pas de rédemption. Quel est exactement l'électrochoc qui le fait changer? Il y a un moment de bascule. Est-ce que c'est le tabassage? Est-ce que c'est le passage à l'hôpital? Ou est-ce que c'est la mort de la grand-mère? Et qui le fait accepter encore?
When I think back to my teenage years, how I was growing up and changing, I don't think there was one particular event that made me change. I think it's a combination of things. So I think all of the things that you mentioned helped him find this new shift. I wouldn't say it's one thing. I think it's all of the things. The death of the grandmother, he learns something about that. The arrival of Lana at the funeral is a big moment for him. It's all of those things together, I think. For me, the ending scene is more about the beginning of change. So for me, the movie ends with not a full change, but just the start of a change. And maybe he will change and maybe not, but at least there is that first step.
Si je repense à ma propre adolescence et ce qui m'a fait changer, ce qui m'a fait évoluer, je ne vois pas un moment clé de bascule. Je pense que ce changement s'opère par toutes ces choses que vous évoquez. Je pense en effet la mort de la grand-mère et change quelque chose pour lui, est une prise de conscience. L'arrivée de Lana à ses funérailles, l'échange qu'il a avec elle. Donc ce sont tous ces petits moments, ces petits événements accumulés qui commencent un changement en lui. Je ne pense pas non plus que le film se termine sur un changement total et radical. Je pense que c'est un premier pas. Est-ce qu'il poursuivra dans le sens de ce changement ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un début de déclic qui a eu lieu par cet ensemble d'événements.
Dans le film que je n'ai pas du tout compris, c'est le moment où il se retrouve dans le tram, dans le bus, avec les jumelles. Et je ne sais pas si les jumelles sont vraiment là, si c'est une image mentale, et quel serait le sens de ce plan.
It's up to you. C'était peut-être jouer avec le système cinéma, non? Parce que moi aussi, je vais demander. Parce que je pensais la même chose. Parce qu'il y avait un moment que dans le montage, il n'y avait pas cette scène. On a remis et tout ça. Mais ça marche parce que tout le monde fait la même question. Même nous, producteurs, ils sont sortis. C'est ce que vous avez vu. C'était peut-être quoi la cinquième version de montage. Et cette scène-là, ça marche. Pourquoi pas? C'est son imagination ou pas. Donc, garder les mystères.
But I can help, maybe. Okay. So for me, one of the things in the film that I wanted to capture is the idea of male gaze. But in the case of Sandro, as he engages in male gaze, making the girls uncomfortable, I wanted to introduce another version or the same version of the object of his gaze, who becomes the one that gazes back. So it's an idea of taking Sandro's male gaze and turning it around to gaze back at him, and this way to disarm his gaze.
Pour vous donner quand même un indice et ne pas vous laisser avec ce mystère, je peux vous dire que l'idée que j'avais, c'est qu'un des aspects que le film voulait aborder, c'est celui de ce qu'on appelle le male gaze, le regard masculin. Je voulais aborder le fait que Sandro représente ce regard masculin, et donc du moment qu'il pose ce regard, il y a une réplique de son objet, de son regard, qui lui renvoie ce regard. C'est-à-dire ce regard qui met mal à l'aise l'objet féminin, et finalement retourné contre Sandro lui-même par le double de l'objet de son regard. C'était l'idée.
Je voudrais revenir sur Dieu. Je suis anarchiste, donc j'y crois pas, mais c'est quand même important.
Moi, j'ai fait un très beau... j'ai transformé Dieu en chien, par
Dans la première partie du film, on le voit, il va vers le tableau du Christ, si elle retourne juste avant de se masturber. Pour moi, religion, hypocrisie, c'est très similaire. Je voudrais revenir sur les trois personnages féminins, parce que pour moi, j'ai vu ça vraiment des archétypes. Il y a la sainte, il y a la maman, il y a la putain, Madame Tabar. Et je voulais savoir quelle était la place d'abord de ce côté de la masturbation avec le tableau qui se retourne. Est-ce que dans votre idée, le personnage de la jeune femme, la sainte, entre guillemets, mais qui devient la fille émancipée, est-ce que c'est la nouvelle génération en Géorgie des femmes?
I think that the girlfriend is already emancipated from the very beginning. She just is looking for a way to approach Sandro and looking for a way to connect with him, but she's already there. She's already in that place of freedom. And yes, it truly represents a young generation of women in Georgia. And about turning the icon, I don't know. I mean, is the question why he does it or...
La question de l'icône, pourquoi, pour qu'est-ce que tu veux en dire?
Le lien entre la religion et l'hypocrisie, puisque Dieu est partout et voit tout.
Yeah, I don't think that he believes in God, Sandro, at all. I just think that he is told that he must believe, and when the father leaves, he tells Sandro that God is everywhere, and God sees everything, and yes, okay, he wants to be a good boy, and he wants to try to behave well, but I don't think that he believes in God. I think it's all very performative.
Alors d'abord pour la copine, Tina, pour elle, il n'y a même pas d'émancipation, elle est déjà émancipée, elle est déjà libre, et elle cherche simplement à établir un lien avec Sandro, a trouvé la porte pour accéder à Sandro et créer une relation avec lui. Mais sinon, elle est déjà libérée et en effet, elle représente absolument la jeunesse géorgienne. Et pour ce qui est de la relation de Sandro à Dieu, en fait, il ne croit pas en Dieu. Je pense qu'il essaye tout simplement d'être... il s'efforce d'écouter ce que dit le Père, parce que le Père, en partant, lui dit « Dieu est partout et Dieu te voit ». Donc il essaye de bien faire pour plaire à son père et pour essayer d'avoir un comportement à peu près conforme à ce qui est attendu de lui. Mais lui n'a pas cette croyance-là.
Vous avez parlé des jeunes qui ont besoin de l'approbation de leur père. On voit le père qui va devenir moine. Et comment ça vous est venu?
Well, I wanted to write my relationship with my father, who was absent. And in the beginning of the screenwriting, I was writing exactly my father, and it was too close. So then I remembered how the father of my friend one day went to a monastery 20 years ago. And I called my friend and I said, okay, I need to talk to you. I'm writing this script, so please tell me everything. And she did. And then when I went to Georgia, I met with her mother. She told me the whole story. And then I went to the monastery and spoke with the man who is still there. And he told me the whole story. So I thought it was a good way to camouflage my father and create distance so that I could write him.
Bah, en fait, j'ai d'abord voulu écrire ma relation avec mon propre père. C'était vraiment la description que je faisais, était l'exacte réalité de cette figure paternelle absente qui était mon père. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est trop proche de notre relation et de lui. Et donc, il fallait que j'aie une autre approche de cette figure paternelle manquante. Et je me suis souvenu d'une amie dont le père, il y a 20 ans, avait quitté sa famille pour se retirer dans un monastère. Donc, j'ai contacté cette amie en disant, j'écris ce scénario, je voudrais parler avec toi. Donc, elle m'a un peu raconté sa version des choses. Puis je suis allée en Géorgie et j'ai pu rencontrer sa mère, qui elle aussi, en tant qu'épouse délaissée, m'a raconté l'histoire. Et puis j'ai fini par aller au monastère et rencontrer le père lui-même pour avoir l'autre regard sur la question. Et c'est comme ça que s'est construite cette figure paternelle avec la juste distance. C'était une bonne façon de camoufler ma propre histoire et en trouvant la distance juste.
Thank you. de l'extrême droite qui n'existait pas à votre époque. Vous, comment l'expliquez-vous aujourd'hui et à quoi l'attribuez-vous?
I think one of the sources maybe is what I would call Christian fascism that developed in Georgia in the last decade, that weaponized the church. And these are people who are spreading violence against immigrants. They spread homophobia, all under the guise of Christian doctrine. And they tend to recruit. It's a familiar story around the world, I think. And they recruit young boys, primarily. It becomes a place of belonging for them.
En tout cas, une des sources, c'est ce que j'appellerais le fascisme chrétien, qui a transformé l'Église en une arme et qui répand une violence contre les immigrés, des propos homophobes, une haine qu'elle cherche à distiller parmi la jeunesse et qui recrute essentiellement des jeunes hommes, tout ça sous la doctrine chrétienne. Et bon, bah, c'est un mouvement qui est général, hein, qui ne se limite pas à la Géorgie, mais qui prend vraiment racine dans cette société depuis une dizaine d'années. Et l'attrait que ça peut avoir pour ces jeunes hommes, c'est très souvent, en effet, un sentiment d'appartenance, une façon de se rattacher à une tradition, à un sentiment d'appartenance et de loyauté à leur racine.
Un reflet, un écho de ce qu'est la société en Géorgie.
I think there are different challenges for young men, yes. In Georgia in particular, there are these cultural scripts that they have to follow, or they think they have to follow, and unfortunately they try to follow. And these are the scripts that are very problematic, as you see in the film, but also beyond that, these are quite misogynistic scripts. They are quite, you know, traditional scripts. They're all grounded in Christian faith. And I think the current generation now is trying to break away from that. It's a battle. But things are changing.
Bon, c'est pas si dur que ça, mais je pense qu'il y a en effet des enjeux, des batailles à mener. Notamment, il y a tous ces modèles sociaux qu'on leur impose et dont qu'ils ont tendance à suivre, qui sont des modèles traditionnels, des modèles misogynes, des modèles très enfermants, fidèles, encore une fois, à la tradition chrétienne et aux cultures chrétiennes. Mais la nouvelle génération essaye de s'en départir. Ce n'est pas simple, mais c'est un chemin qui est entrepris.
Qu'il en était en ce qui concerne donc la distribution du film. Vous travaillez sur quoi en ce moment?
Alors, un peu comme les grands festivals, c'est ce qu'on appelle le Big Five, que ce sont les grands festivals du monde. C'est que le sujet que moi je trouve très important, et ils vont en parler. Les cinémas aussi, même dans un monde de cinéma d'auteur, il y a un peu de conformisme toujours. Là, on est très foncé sur tout ce qui est MeToo, qui s'importe. Je trouve ça très important. Mais ça risque toujours de devenir un peu conformiste. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui nous a dit « Ah oui, c'est un bon film, c'est un très très bon premier film. » Mais un réalisateur homme, hétéro, blanche, ça part mal. Ça aide pas, en essence, s'il y a deux films de la même qualité, et de l'autre côté, il y a, je sais pas, tout le reste, maintenant, et il a une voix préférentielle. Je trouve ça bien, parce qu'on était arrivé dans un moment, hein, tout après tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec Weinstein et tout ça, qu'il fallait le faire. Malheureusement, au niveau distribution, c'est un peu la même chose. On a des intérêts, moi, j'avais une idée, mais le film va sortir, ça c'est sûr. Là, on verra dans quelle façon. Parce que moi, je suis auteur français avec Olivier et en Italie aussi. On a trouvé de l'argent en Italie aussi. En Italie, on a une grande crise parce que tout ce qui est là dans le film, on le vit sous notre peau parce qu'on est dans une situation désespérée. Là, le gouvernement est en train d'effacer les cinémas d'auteur complètement. Donc, mais il y a des intérêts, on va les sortir. C'est ce que je trouve important, et j'ai vu là, j'ai sorti un film en Italie, c'est la presse, c'est vous. Parce qu'il y a quand même un grand intérêt, il y a un grand public de cinéma d'auteur partout. Qui fait exister le film, c'est le word of mouth,
bouche à
oreille et tout ça, qui est important pour des films comme ça. Et le fait que ça vienne d'un pays qui a un peu été en avant-première dans cette situation-là, le fascisme chrétien, même en France on commence à voir ça, aux États-Unis avec Trump, en Italie avec la Meloni. Donc je trouve qu'un film comme ça, pour moi en tant que producteur, c'est très important de les sortir, le faire circuler le plus possible. Là par exemple, en Italie, la RAI, si la RAI achète le film, ils sont obligés de le transmettre. J'espère que ça va sortir dans le nombre plus important des pays au monde. Mais les pays producteurs, Géorgie, Italie, France et Roumanie, ça c'est sûr. J'espère qu'on aura la chance de le sortir aux États-Unis parce que Géorgie habite aux États-Unis. Donc c'est pas facile parce que les États-Unis, au niveau film, c'est les plus protectionnistes du monde. Tout ce qui n'est pas en anglais, c'est très compliqué. J'espère aussi parce que pour la Géorgie, je pense cette année non, parce qu'il y avait deux films à Venise qu'il avait un peu une voix privilégiée. Et pour le film géorgien, pour les Oscars. Mais je pense qu'on a des bonnes chances l'année prochaine, une fois que le film sera sorti, pour l'envoyer aux Oscars en tant que film géorgien. Après, ça dépend, hein, parce que aux États-Unis, il faut voir ce qui va se passer d'ici quelques semaines. En Italie, j'avais des intérêts pour là, mais c'était des très petits. Après, il y a des autres un peu plus grands qui ont montré un intérêt. Et donc, on est en négociation, donc on verra.
Yes, the next project. I have a script that I'm writing. It's about love.
In Georgia?
Yes. And the impossibility, questions of fidelity. One of the things that I think about is the quote, love must be reinvented by Arthur Rimbaud. So this is how I approach it.
Donc voilà, ça traite de l'amour, les questions de fidélité. L'amour doit être réinventé de Rimbaud en Géorgie. Donc c'est un cours d'écriture.
En Géorgie comme en Italie, il y a des grands problèmes pour les financements. Ils ont donné le ministère de la Culture à l'ancien ministre de la Justice et s'occupe de la culture comme si c'était un directeur de prison. Donc il a complètement criminalisé tout ce qui sont les thématiques LGBT, tout ce qui est un peu osé niveau truc. Donc la plupart des producteurs, ils sont en grève. Ils ont décidé de ne pas déposer des demandes de financement là-bas. Donc en Italie, ça, on va dans la même direction, plus ou moins. Georgia, on parlait de ça, après on va aller un peu plus à fond dans ces discours-là. On va peut-être essayer un tout petit budget avec des financements personnels et tout ça, pourquoi pas. Il a la capacité parce que c'est vraiment un talent, hein. Ça c'est sûr, c'est une histoire simple, c'est un peu moins. Il y a beaucoup de personnages alors que là c'est un peu plus concentré sur cette coupe-là. Ça devrait être plus facile de faire avec un petit budget, on verra. Mais je suis sûr que même, c'est important dans les cinémas, engager des jeunes. Des fois, quand il y a quelqu'un avec un talent comme ça, ils sont disponibles à faire des efforts, à venir pour des salaires moins importants. Parce que moi je suis sûr que même si on essaie de chercher des financements publics et tout ça, on peut y arriver, comme on est arrivé pour Panopticon, ça a pris 3-4 ans, après il y avait même pour Panopticon au début il y avait un problème, on avait déjà eu Cinéma du Monde, on avait déjà eu le minoritaire italien, on n'arrivait pas à dégager l'argent en Géorgie parce que c'était un sujet un peu dérangeant pour la politique qu'ils ont maintenant, ça prendrait trop de temps. Je pense que pour lui c'est important de tourner un film, un bon film le plus vite possible. Il a déjà quelque chose de bien développé, donc être un peu esclave des financements publics, ça pourrait ne pas aider parce que le film vieillit très 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 vite maintenant. Peut-être un truc comme ça, c'est important d'en parler maintenant, mais au bout de 3 ans, il y a des sujets plus importants à la page. Donc on verra, j'espère bientôt. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les courts-métrages de George. Moi, en fait, c'est ce qui est intéressant parce que moi, j'ai rencontré George ici, donc il y avait le dispositif de Gourlon. Et donc, moi, j'avais déjà vu ces courts-métrages, notamment celui qui parle de Staline. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir, ça s'appelle Fatherland. J'avais un autre projet à la bourse. Je regarde sur le projet et je vois qu'il y a le mec qui a fait Fatherland. Je dis, non, mais il faut que je rencontre, ça m'intéresse beaucoup de reproduire ce mec-là. Tout est commencé là. Tous les courts-métrages sont magnifiques. On fait les grands festivals, on fait Toronto, Clément Ferrand. En fait, Olivier, mon associé qui était sélectionneur à Cannes des courts-métrages, m'avait parlé de ce court-métrage-là, qu'il avait failli d'un centimètre être dans les 10 sélectionnés. Mais là, il y a toujours c'est un peu un mystère, les sélections, parce que moi, je suis dans des sélections en Italie pour des scénarios. Et ils sont faits avec vraiment rien. Et la qualité est la même. Je trouve que, oui, même ça a beaucoup de moyens. En fait, des fois, ça aide. Être un peu obligé de ne pas trop dépenser. On compense avec l'enthousiasme, l'envie de l'équipe. Surtout si c'est une équipe de jeunes, de donner le maximum sur un film comme ça.
Toute la mise en place, quand on suit le Sandro, je suis partie, moi, sur la piste possible d'une attirance homosexuelle, avec la scène de la douche, sa fragilité, et ce qu'il a de très féminin aussi, quoi. Il est très beau, il se modifie petit à petit avec la coupe de cheveux, etc. Mais il est splendide, je ne me rappelle pas à quel moment, mais il est allongé, on dirait une très belle jeune fille, c'est valable pour tous les autres.
I think it's latent for Sandro, but he came to the audition and I saw him there and I immediately felt something. I cannot explain it. I felt something, and I was looking for someone that was that had the presence on camera that would go beyond the image.
Ça reste latent chez lui, cette attirance que tu décris, et il est venu juste passer une audition, comme tout le monde, et tout de suite j'ai su que c'était lui. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas je sais que je cherchais quelqu'un qui ait une présence qui déborde du cadre.
Merci, merci infiniment. Musique originale de Chiara Costanza. Durant l'entretien, la traduction a été assurée par Masoumé Laïdji. Panopticon de Georges Sikarulidze au cinéma le 24 septembre. Les musiques qu'on a pu entendre, il y avait la musique Kalimat, la chanson Kalimat, interprétée par Majda El Roumi, et puis un extrait de la bande originale du film Zion de Nelson Foy, composé par Brice Davoli. Un film très important que je n'ai pas cité dans la présentation, Muganga, celui qui soigne, un film de Marie-Hélène Roux qui sort le 24 septembre. En 2016, le film documentaire de Thierry Michel, « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate », nous faisait découvrir une région africaine magnifique, en bordure du lac Kivu, qui depuis des décennies est le théâtre de conflits permanents, de massacres de la population civile, de crimes de guerre perpétrés en particulier à l'encontre des femmes. Pour son malheur, cette région congolaise, à la frontière du Rwanda et du Burundi, est riche en ressources minières, notamment en coltan.
La République démocratique du Congo dispose actuellement d'au moins 70% des réserves mondiales de coltan, un métal utilisé notamment dans les ordinateurs et les téléphones portables. Cette richesse est à la source des guerres interminables et des massacres qui chassent la population des collines, laissant ainsi le terrain libre à une exploitation que se disputent les différents groupes armés pour ensuite le revendre aux multinationales qui n'ont aucune obligation d'informer sur la traçabilité du coltan. Denis Mukwege est docteur gynécologue. Il habite cette région frontalière et depuis le génocide du Rwanda en 1994, il a constaté la multiplication des atrocités contre les femmes, viols collectifs, destruction de l'appareil génital, empalement. Cette violence inouïe et systématique l'a amené à se révolter et à dénoncer l'absence de solutions politiques pour faire cesser ces atrocités. Spécialiste du traitement des femmes violentées, il est quotidiennement témoin des tortures et des tueries dont elles sont victimes dans le déni de ces crimes. Le film documentaire décrit la lutte de ce médecin et la mobilisation des femmes pour que cessent les violences contre l'impunité des militaires et des bourreaux. Le combat du docteur Mukwege se situe au Congo, mais il voyage aussi dans le monde entier pour parler de la situation des femmes au Kivu. Cet engagement le condamne à vivre confiné dans l'hôpital de Panzi pour des raisons de sécurité. Il a déjà failli être assassiné et ses déplacements se font sous escorte. Le travail du docteur est à plusieurs niveaux, au niveau médical, mais aussi psychologique, économique et juridique, tout en continuant d'assurer les interventions gynécologiques entre deux voyages internationaux, la gestion de l'hôpital et la formation des équipes. En réalisant Muganga, celui qui soigne, la réalisatrice Marie-Hélène Roux prend le relais du documentaire pour exposer en fiction la réalité du terrain. Dans cette Afrique centrale, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, soigne toujours au péril de sa vie des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Et c'est lors de l'un de ses voyages qu'il rencontre Guy Cadière, chirurgien belge, qui le rejoint au Congo pour opérer et tenter de sauver ces femmes. Dans le film documentaire de Thierry Michel, la parole était déjà donnée aux femmes qui témoignaient. Dans son film, Marie-Hélène Roux met en scène leurs paroles, leur détermination, leur désespoir aussi. Par exemple, le trajet de l'une d'elles qui arrive brisée à Panzi avec le seul enfant qu'elle a pu sauver du massacre perpétré dans son village. Et une autre qui ne supporte pas l'idée d'avoir un enfant issu d'un viol collectif. Et ses enfants, issus des violences que l'on appelle les enfants serpents. Le monde est resté trop silencieux face à ces souffrances et j'espère, dit le docteur Denis Mukwege, que ce film ouvrira les yeux et impulsera un changement. J'espère qu'il inspirera les spectateurs à devenir des participants actifs dans notre lutte pour la paix et la justice pour les survivantes de violences sexuelles et toutes les victimes des conflits en RDC. Il a fallu 10 ans à Marie-Hélène Roux pour réaliser ce film qui, comme souvent les créations artistiques, interpelle. Il est une arme contre les dirigeants qui détruisent progressivement notre civilisation, le savoir, la démocratie, la culture, la tolérance et l'empathie. Ce film combat ceux qui nous encouragent à nous haïr mutuellement, à exclure l'autre, parce que c'est sur ces déchirures qu'ils assoient leur pouvoir. Je crois qu'une fiction, ajoute le docteur Guy Cadière, peut mieux refléter la réalité que toute autre œuvre. Dans une région où le chaos prédomine, où les grandes de ce monde se servent comme dans une bijouterie à ciel ouvert, il est crucial de médiatiser les atrocités qui s'y déroulent. Que ce film nous rappelle que le seul combat qui vaut la peine, c'est celui pour l'humanité. Ce n'est pas un combat pour une nation, pour un drapeau, une religion, une couleur ou un genre. Le travail de Marie-Hélène Roux est extraordinaire. Par son travail, ces femmes sont littéralement incarnées. Je voulais montrer comment elles vivent, comment elles rient, comment elles s'entraident et surtout comment elles sont les véritables actrices de leur propre reconstruction. C'est là toute la force de Panzi. La reconstruction est collective. Elle passe par les soins médicaux, bien sûr, mais aussi par les liens humains, les échanges entre patientes, l'accompagnement psychologique, les formations. Le film devait rendre cela visible. Les interprètes sont extraordinaires, le récit est prenant et informe avec vigueur. Les femmes sont le moteur de toute cette histoire, déterminées, même si les dernières nouvelles sont désespérantes. En 2025, malgré un sous-sol riche, 80% du cobalt et du coltan mondial, la RDC reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Les violences, motivées par l'appât des ressources, continuent de détruire des vies, les institutions et toute perspective de paix durable. Muganga, celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux, à ne pas louper, au cinéma le 24 septembre.
Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. La jeunesse est là, les richesses abondent, l'avenir nous attend. Le soleil appelle le tourisme. Pas de postulat, la bonne humeur vagabonde. Combattant, exploitant, il n'y a pas d'opportunisme. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre? Faut pas nous dire à nous que notre Afrique est pauvre. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir.
L'Afrique a besoin de personnes, juste envie de vivre de grandeur et d'estime les mêmes mots qui résonnent. Wow. Comment réussir? Cartable sur une épaule. Marcher pour s'enrichir, le pouvoir de s'instruire, déterminer, mais ça, pouvoir réagir. Hey, Abida, y allons, y allons. C'était nous lâcher le rond.
Tikenja Fakoli, Beau Continent, c'est évidemment ça s'imposait. Maintenant, je voudrais vous parler d'un film de Radu Joud, le nouveau film Continental 25. Radu Joud réalise avec Continental 25 un film social et politique. C'est à nouveau une critique acerbe de la société actuelle. Orsolia, huissière de justice en Transylvanie, est appelée un matin à expulser un sans-abri vivant dans le sous-sol d'un immeuble destiné à devenir un hôtel de luxe du centre-ville. Il se passe alors un événement inattendu qui fait passer l'histoire de cet homme à celle de l'huissière de justice qui se sent coupable de ce que lui a fait faire son métier. Elle vit, après coup, un dilemme moral, mais le mal a été fait, la situation est irréparable et sa complicité est évidente, comme la nôtre d'ailleurs. En fait, comme le précise Radu Joud, c'est l'histoire de quelqu'un animé de bonnes intentions, quelqu'un de bon et de consciencieux, mais néanmoins coincé dans le système. Il nous arrive à tous d'être témoins de scènes d'injustice face à une personne sans abri, par exemple, d'en être affecté et de poursuivre notre vie comme avant. Il se peut que nous fassions un don à une organisation pour soulager notre conscience, tout en sachant que ça ne changera rien, dans le fond. Ce sentiment est particulièrement fort en Roumanie à cause de l'histoire du pays. Après la dictature de Ceausescu, le pays ne s'est pas transformé en démocratie sociale, mais en démocratie néolibérale, offrant peu de protection sociale. La culpabilité d'Orsolia reflète les manquements du système, mais le film s'intéresse à son expérience individuelle, plus qu'il ne cherche à faire de grandes déclarations idéologiques. J'ai aussi pensé à Carlo Ginzburg, un historien qui compte beaucoup pour moi. Il explique que le cas est plus intéressant que la règle. Fidèle à son regard critique sur la société et ce qu'elle engendre, Radoujout prend pour cible la gentrification, la consommation, mais aussi l'acceptation des gens d'une situation présentée comme inéluctable. Donc, cela concerne aussi le contexte politique spécifique de la Roumanie et ailleurs. Il revient d'ailleurs sur sa manière de filmer qui, dans le film, peut paraître plus classique. Je me suis toujours intéressée à l'histoire et ce film en est l'illustration. Il est différent de mes précédents films par la simplicité, les dialogues, la mise en scène minimale et le soin porté aux mots. Les images des immeubles de la ville à la fin dans lesquelles se font le récit est aussi quelque chose de nouveau. C'est un retour aux possibilités du début du cinéma. Un autre point de continuité entre ce film et mes derniers films, c'est mon désir pour le documentaire. Certains de mes films récents sont soit des documentaires, soit des fictions qui comportent des éléments de documentaire. J'ai l'impression que ces morceaux documentaires ancrent le film dans la réalité. C'est pour cela que la fiction ici, dans ce film, est interrompue par des plans documentaires simples, des bâtiments où l'histoire s'est déroulée. On peut dire d'une certaine façon que le film tire deux fils, celui de la fiction qui cède la place à la fin à celui du documentaire. Bien sûr, l'absurde et la farce tragique n'est jamais loin dans le cinéma de Radoujout. Le décor surréaliste du parc d'attractions avec ses dinosaures en carton-pâte semble presque plus réel que les humains avalés par le système. Parallèlement à la sortie du film en salle le 24 septembre, une rétrospective Radoujout se déroule au MK2 Bibliothèque et Centre Pompidou du 23 septembre au 11 octobre avec en ouverture la projection de Continental 25 et en clôture Dracula dont la sortie est prévue le 15 octobre. Toujours à propos de Radoujout, vient de paraître La fin du cinéma peut atteindre. Donc La fin du cinéma peut attendre, ouvrage coédité par le FID Marseille, le Centre Pompidou et les éditions de l'Œil. C'est un ouvrage monographique consacré à Radoujout avec des extraits du journal du cinéaste, un long entretien, ainsi que plusieurs textes. Une possibilité de connaître le cinéma de Radoujout, cinéaste important et veilleur social en quelque sorte. La fin du monde peut attendre nous permet de passer à la rentrée littéraire avec deux livres qui offrent une transition avec le sujet. Deux livres parus chez Lux. Mais avant, juste une petite musique. Orange Blossom, Maldito, on le réécoutera une autre fois. Et là, je voudrais vous parler donc de ces deux livres parus chez Lux Éditeur, Intrigue de Simon Tremblay-Pépin. Et voilà ce qu'il en dit. Comme la sorcellerie, les relations publiques évoluent dans un clair-obscur. On ignore où commencent leurs effets et où ils finissent. Un doute subsiste toujours sur l'identité de la personne qui agit en tant que relationniste, sur ses motivations, sur ce qui relève, réellement de ses actions, ou plutôt du hasard. Quant au public, la logique de guerre dans laquelle l'enferme les relations publiques transforme le terrain de la parole en un champ de bataille boueux, où l'on différencie mal le sol ferme de la pente glissante. les amis, des ennemis. Extrait du texte de Simon Tremblay-Pépin, Intrigue. Fort de son expérience de conseiller en communication, ben voilà, on y vient, Simon Tremblay-Pépin tente d'expliquer combien il est difficile d'éviter et de passer outre certains arrangements avec l'éthique, voire avec la vérité. Il dissèque les relations publiques, outils de transformation sociale, toutefois utilisés à des fins nuisibles. Je suis pas étonnée. Et leur usage a un prix. L'érosion, et leur usage a donc ce prix, l'érosion des fondements mêmes qui permettent ces transformations sociales. Intrigue de Simon Tremblay-Pépin chez Lux Éditeur. Toujours dans cette même édition, Lux Éditeur, cette fois il s'agit d'une satire, une réflexion ironique et acerbe sur les temps actuels de Marc Fortier. Jugé du titre, Devenir fasciste, ma théorie de conversion. Avec, si j'ose le dire ainsi, en accroche, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, opportuniste, il est temps de changer de camp. L'extrême droite a pris le pouvoir dans de nombreux pays et elle menace de le prendre dans plusieurs autres. L'auteur s'inquiète. En même temps, il est très las. Ses convictions politiques sont à gauche, bien sûr. Il constate néanmoins que s'il ne veut pas être la proie des prochains maîtres du monde, il faudra changer de camp. Ah, le grand mot est lâché. Devenir fasciste, journal de conversion, est un pamphlet cinglant et comique qui s'en prend aux fascistes et, en tout premier lieu, à tous ceux et toutes celles qui n'ont guère résisté ou bien disent, comme on l'entend parfois, « Oh ben, ils n'ont jamais été au pouvoir, ça ne peut pas être pire ». Lucien, notre technicien, fait souvent cette remarque. Il et elle ont la mémoire bien courte. Il faut se remémorer la période de la collaboration, 5 ans quand même. Dans cette satire, Marc Fortier se compose dans cette satire une psyché autoritariste et s'efforce d'adhérer avec enthousiasme aux convictions de la droite radicale. Mais il offre avant tout un portrait saisissant de la dégradation des institutions et une description affligeante de ce qui pointe lorsque l'on cesse de résister. Extrait. La première étape de la thérapie de conversion au fascisme, c'est le lâcher-prise. Le sujet doit s'ouvrir intérieurement au changement, laisser agir en lui la peur, s'abandonner aux petites lâchetés et aux compromissions opportunes. Cela ne va pas de soi. Heureusement, des personnalités exemplaires nous montrent comment on peut accepter le changement par degrés, subrepticement, sans coup d'éclat. Devenir fasciste, ma théorie de conversion, de Marc Fortier, chez Lux Éditeur.
Sinueux, j'ai bien plus gamin, je suis vieux. J'ai grandi trop vite dans une vie trop petite, c'est insidieux. J'ignore la suite des événements, ni de vin ni dieu. Je me soustrais alors à l'ordre qui ne promet ni de bien ni de mieux. Mais le bruit des bottes qui escortent des lendemains miteux. L'angoisse est forte, c'est le silence qui de loin le dit le mieux. J'ai de bien petits yeux, épuisé par le combat. Ainsi je veux me battre jusqu'à la mort, je leur ferai du tort si du moins je vis vieux. Le point qui se veut ferme face à des coups, un brin vicieux. Pas trop du genre vengeur, mais quand même un petit peu. Le principe veut que vu que l'état fait bien ce qu'il peut pour m'empêcher d'aller. Ailleurs qu'en direction d'un espin hideux. Je lève un puits de poids, je veux pas de toi, j'en ai un si peu. Je fais ce que je dois chaque fois que je vois qu'un grand a peint si peu. Je ne tiens ni ne demande mon chemin, je suis le cap qu'indique le rap. Ne me cherchez pas sur les sentiers battus, je suis à mi-mieux.
Et moi je maintiens le cap, prends mon courage à demain. J'en des sentiers battus, mais pas le fait me battre à demain. Je suis pas devin, je sais pas où je vais, mais je reviens de loin. Je mets un pied devant l'autre et ne ferai pas un pas de moi. Je maintiens le cap, prends mon courage à demain. J'en des sentiers battus, mais pas le fait me battre à demain. Je suis pas devin, je sais pas où je vais, mais je reviens de loin. Mais là je peux pas m'enturer, m'aventure loin du droit chemin.
chemin.
J'arpente les chemins de travers, j'avance même sous l'averse. Même quand les vents sont contraires, rien ne m'arrête, c'est l'inverse. Quand les choses vont de travers, que la force est adverse. Que l'effort à fournir est immense et qu'il y a le reste. Même quand les obstacles sont gigantesques, car les routes là consistent en un défi dantesque. L'enfer c'est pas tout à fait identique, mais on s'y sent presque. Ne parle pas de la fée, j'ai pas le temps et ici le temps presque. Que Dieu me pardonne de ne pas croire en lui. Je crois en moi et je m'étonne du temps que ça m'a déjà pris. La nuit je rêve d'aventure, je n'ai peur de rien part de l'ennui. Et si je crève, je veux qu'on écrive ici, j'ai un mal appris. Effronté, j'ai dû affronter tout ce à quoi j'ai pu me frotter. Je compte bien protéger le peu qu'on ne m'a pas pris. N'allez pas vendre la peau de la panthère, surtout à bas prix. Vous faites fausse route si vous pensiez en être à l'abri.
Et moi, je maintiens le cap, prends mon courage à deux mains. J'en des sentiers battus, mais pas le fait me battra demain. Je suis pas devin, je sais pas où je vais, mais je reviens de loin. Je mets un pied devant l'autre, traînerai pas un pas de moins. Je maintiens le cap, prends mon courage à deux mains. J'en ai senti battre, mais pas le fait, me battra demain. Je suis pas devin, je sais pas où je vais, mais je reviens de loin. Mais là, je peux pas m'enturer m'aventure loin du droit
je
chemin.
Je ne vais pas passer par quatre chemins.
Jamais.
Ni remettre à demain ce que je peux faire à présent si je prends mon courage à demain. Je n'ai pas de bien grande chance d'en sortir. Je ne vois que main, combat à livrer pour me délivrer. Pas un pas me retient. J'avance pas à pas, écarte loin du droit chemin. De celui tout tracé pour tracer ma route. Moi, je maintiens qu'il ne faut coûte que coûte. Car par là, tu vois le point. Le mois, le juin, c'est demain. Moi, j'ai bien droit le point. Je ne vois que l'insurrection comme issue à ce point. Je n'ai pas besoin qu'on puisse pas faire, j'en prendrai moi le soin. Je m'affaire à faire la guerre au capital. Rejoins les forces révolutionnaires et sonores et je lâche rien. L'État te viendra en aide. Moi je veux bien, mais je crois que bien sûr il a un plan et on le voit de loin. T'as fait plus pour consommer plus Paris, si pas de moins. Je dure contre un futur aux allures d'une une du journal Le Point.
Moi je maintiens le cap, prends mon courage à demain. J'en des sentiers battus, mais pas le fait me battra demain. Je suis pas devin, je sais pas où je vais, mais je reviens de loin. Je mets un pied devant l'autre, traînerai pas un pas de moi. Je maintiens le cap, prends mon courage à demain. J'en des sentiers battus, mais pas le fait me battra demain. Je suis pas devin, je sais pas où je vais, mais je reviens de loin. Mais là, je peux pas m'aventurer, m'aventure loin du droit chemin.
Our paths diverge, but take us to the same place. 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 L'inconsolable droit chemin. Vous êtes toujours à l'écoute des Chroniques Rebelles de Radio Libertaire 89.4.
Alors maintenant, évidemment, il fallait bien l'inconsolable pour parler du droit chemin, pour parler d'une BD absolument géniale parue chez Nada, Mauvaise fortune de Fano Loco. Voilà un western politique et une fable sociale qui montre un monde régi par le profit où tous les coups sont permis. Ici-bas, sous la lune, tout le monde cherche la fortune. Ouais, bien sûr. États-Unis-Mexique dans les années 1910, Morning Bird, un jeune autochtone rescapé du massacre de sa communauté, et Adelita, une révolutionnaire insoumise, se rencontrent et leur destin va ainsi basculer. En effet, pris dans les rouages d'une machination orchestrée par des hommes d'affaires avides de pouvoir et d'argent, Morning Bird, oiseau du matin, et Adelita croisent sur leur route une foule d'anonymes animés par la soif du fric, l'appât de la fortune et bien sûr en quête d'une vie meilleure. La question est, comme toujours, mais à quel prix ? La grande fédération démocratie directe et vie fédérale de Pierre Banse aux éditions Noir et Rouge. Partout sur la planète, dans les villes comme dans les campagnes, des femmes et des hommes cherchent à changer le monde en décolonisant leur imaginaire de l'aliénation étatique et marchande. Dans une floraison d'idées, des alternatives politiques sociales, économiques, écologiques, culturelles et féministes font vivre la commune. Toutes placent la démocratie directe comme mode d'organisation, malheureusement. Ces poches de résistance et d'innovation sociale sont dispersées, sans projet politique commun, sans structure fédérale pérenne. Bien sûr, leurs expériences préparent l'avenir post-capitaliste, mais elles ne sont pas en mesure de guider la transition vers un autre futur. Souvent, elle ne l'envisage même pas. Elle ne constitue pas une force susceptible d'inquiéter durablement le pouvoir et la finance. Les hasards de l'histoire provoqueraient-ils une rupture avec l'ordre établi ? Si rien n'a été organisé, si rien n'a été préparé, il ne faudra pas longtemps à l'État pour reprendre le dessus par la répression ou les élections. Il ne suffit pas d'aspirer à une société de communes autonomes fédérées. Il faut préparer ce changement bien avant. Dans un premier temps, il s'agira de converger pour constituer un mouvement pour la démocratie directe, forme nouvelle d'organisation fédérale fondée sur l'autonomie des unions locales. Ouvert au débat d'idées, il préparera et élaborera un contrat social qui décrira les institutions d'une auto-administration signant la fin de l'État et les institutions de l'autogestion actant la fin du capital. Ce mouvement envisagera toutes les situations pouvant provoquer le basculement vers le communalisme et le fédéralisme libertaire. Fin de citation. Le samedi 4 octobre à 15h, les éditions Noir et Rouge présentent la Grande Fédération, démocratie directe et vie fédérale de Pierre Bense, qui sera également à la fête du livre des éditions Noir et Rouge les samedis 27 et le samedi 27 et le dimanche 28 à prochain à l'école Émancipée.
You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me, somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl. We'll go. Say, then we will remember things we said today.
Ben vous avez certainement reconnu, c'est les Beatles. Donc dans cette chanson, Things We Said Today. Pourquoi ? Bien parce que cette chanson donne le titre du film, un film qui sort aussi le 24 septembre, c'est TWST, Things We Said Today. C'est un film d'Andrei Ujica et qui nous remet en 1965 à New York où se prépare un concert très attendu et qui déclenche des réactions hystériques de jeunes filles. C'est le groupe des Beatles au moment de Hard Day's Night, donc c'est le premier concert aux États-Unis. Une symphonie urbaine, c'est bien ainsi que l'on peut voir ce film entièrement constitué d'archives. Une sorte de patchwork des diverses apparences de New York et de sa population durant l'été 1965. Le documentaire commence avec une séquence dans les studios de Radio Caroline, station dédiée au rock, et enchaîne sur l'arrivée des Beatles à New York, l'aéroport. Puis les fans du groupe à New York, la conférence de presse quelque peu chahutée, ou à la question d'un journaliste « Où aimeriez-vous aller à New York ?» John Lennon répond « Harlem ». Dehors, les réactions d'adolescentes sont électriques, elles attendent le groupe, elles sont interviewées par un journaliste, donc là c'est quelque chose d'assez drôle. Le documentaire nous balade ensuite à Harlem, Jones Beach, avec les jeux et les sorties familiales, les glaces, etc., les baignades et autres bouées, les pique-niques aussi, la Statue de la Liberté. Ce documentaire non dénué de fantaisie est également une œuvre d'imagination, utilisant des dessins animés superposés de Ian Kebby et une voix off descriptive tirée d'écrits de Geoffrey O'Brien et de Judith Christen, ainsi que de textes poétiques d'Ujica lui-même, pour remettre en mémoire et célébrer ce moment disparu de l'histoire dans un style très personnel, inédit et touchant. C'est aussi le portrait sociologique de New York avec ses classes sociales, les rues, les buildings du centre et les quartiers avec les maisons façon suburb alentour. Une chronique sociale de la ville de New York entre les 13 et 15 août 1965 à l'arrivée des Beatles dans la ville pour leur premier concert à guichet fermé au Shea Stadium du Queens. TWST Things We Said Today d'André Ujica au cinéma le 24 septembre. 18e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg du vendredi 26 septembre au dimanche 5 octobre. Le Festival européen du film fantastique de Strasbourg est un rendez-vous majeur du film fantastique en France et constitue l'un des plus complets du genre. Il met en avant les nouvelles productions internationales du cinéma fantastique, tout en faisant la part belle aux thrillers, films et comédies noires, ainsi qu'aux jeux vidéo et au cinéma en réalité virtuelle. Part belle à la critique sociale et politique aussi, c'est sûr. Retrouvez les infos sur Strasbourg Festival tout attaché .com/fr/ Strasbourg Festival tout attaché .com/fr/. Et je voulais vous parler évidemment de journal que j'aime beaucoup. C'est QFD, c'est le numéro 244 et c'est le numéro de septembre, donc de ce mois, avec un édito du Chien Rouge qui est vraiment pas mal. Tout niqué avec méthode. Tiens, jolie rentrée, prometteuse, dans les discours tout du moins. Partout ça bruit, ça s'emballe, ça discute stratégie, ça ressuscite le fantôme encore vivace des gilets jaunes, ça proclame que cette fois c'est la bonne, et allez voir ce que vous allez voir, nom d'une Louise Michel, chez les gauchistes plus ou moins radicaux de France et de Navarre, il y a comme une folle attente autour du 10 septembre. Ah, bah oui, bah maintenant on attend pour le reste, hein, parce que ça c'était au début. Pour lequel le mot d'ordre est clair, on bloque tout. Alors oui, vendre la peau des ours néolibéraux avant de les empailler, c'est s'exposer à un fort risque de désillusion. Mais on a envie d'y croire. Alors, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas lister les raisons de se foutre en rogne, aussi nombreuses que les des acariens au salon de la moquette d'occasion, depuis notre grotte marseillaise, forcément, notre focale et locale. Et on entend les idées qui jaillissent des bas-fonds de la ville. Au hasard, le port de Marseille. Fausse, ne dit-on pas que bloquer les flux, c'est paralyser le système? Coup de bol, le dit port est situé juste à côté de l'hideuse tour CMA-CGM, entreprise de transport maritime pilotée par le squale Rodolphe Saadé, proche de Macron, et qui est par ailleurs proprio de RMC, BFM et la Provence. Ah bon? Ah bah dis donc, il a tout lui. On ne voudrait pas donner d'idées trop radicales, vous connaissez. On est aussi responsable que le premier pyromane venu. Mais bon, retenir au pain sec et à l'eau de vie le top management des lieux, façon Kléber Michelin et Goodyear, ça aurait une certaine gueule. Côté grande surface, avec la maréchaussée affairée à éborgner les manifestants, organiser des petites opérations auto-réduction, s'avère une perspective alléchante. Autre horizon, au nid des Marseillais et Marseillaises, le tunnel Prado-Carénage et son euro 50 le kilomètre. Eh ben, dis donc. Pourquoi ne pas le rendre gratuit le temps d'une matinée par le biais d'une opération péage libre à la sauce gilet jaune avec un chapeau pour recueillir des dons pour la cause, pour la caisse de grève? Ah bah oui, bien sûr. Alors il faudra bien soutenir nos grévistes acharnés pour qu'ils et qu'elles soient tiennent leur piquet et mettent un coup d'arrêt à la production. Puis converger gaiement sur les rails des gares du coin, histoire de stopper les trains de touristes et de marchandises. Quant aux immeubles inoccupés depuis des années, rue de la République, on sait bien qu'ils ne sont pas faits pour être habités, mais pour spéculer. Il faut pourtant bien loger les mineurs et mineures isolés, récemment expulsés du kiosque des réformés. Ou bien se dénicher un espace permettant aux mécontents et mécontentes en tout genre de reconstruire les suites de ce fameux 10 septembre. On dit ça, on dit rien. Ce ne sont que de doux rêves pour l'instant. Mais si vous décidez de vous lancer dans quelque aventure de ce genre, prévenez-nous, on ne voudrait pas manquer la fête. Et puis il y a cette citation qui, ma foi, elle est toujours aussi forte et aussi de... d'actualité. C'est une citation de Voltairine de Clercq tiré des écrits d'une insoumise. Le pouvoir des ouvriers ne réside pas dans la force de leur vote, mais dans leur capacité à paralyser la production. Ben, vous voyez, on y est toujours d'actualité. Et puis, il parle aussi de l'animal du mois. Il y a beaucoup de choses dans ce numéro. Je rappelle, c'est le numéro 244 de CQFD, septembre 2025. L'animal du mois, la méduse anti-nucléaire et anti-touriste. Bigan, en voilà une qui a mauvaise réputation. Enquête sondage, bien peu de chances que les personnes interrogées répondent « Ah ouais, j'adore les méduses ». À cela, on répondra que tout est affaire de point de vue et que ces ressortissants de la famille des cnidaires ne méritent pas tant de haine, contrairement aux hideuses chaussures du même nom. Commençons par leur mode de vie, habillés de robes de mariée, blanches, violettes ou bleues, elles se laissent avec grâce dériver au gré des courants, rétives à toute forme de travail. Nul doute qu'elles ont lu « Le droit à la paresse » de Paul Lafargue. Cela ne les empêche pas de développer une activité militante des plus fournies. Farouchement antinucléaires, elles ont aussi envahi mi-août les stations de pompage de la centrale nucléaire de Gravelines, forçant l'arrêt de 4 des 6 unités du site. Autre exploit, leur débarquement à la même période sur les plages de la Côte d'Azur en mode « The Day ». On imagine avec joie les touristes huppés de Saint-Tropez recouverts de filaments urticants et chialant de douleur sur les pages écho du Figaro Miam. Quant au chavirage d'un chalutier de pêche en 2009 au large de Tokyo suite à la présence dans leur filet d'une horde de méduses gigantesques, les charmantes Nomura, qui peuvent atteindre 200 kilos. C'est évidemment une action concernée contre la surpêche. En clair, stop à la diffamation. Et la prochaine fois que vous en croisez une, embrassez-la sur la bouillie. Trop mimi. Voilà, donc ça c'était, j'en ai profité puisqu'on avait encore 5 minutes, donc pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, puisque j'ai voulu vous en parler à plusieurs reprises, mais malheureusement le temps a manqué. Il y a aussi cet article, accord USA-UE, hausse des droits des douanes, le capitalisme en crise. Faut-il voir dans ce retour fracassant des barrières commerciales un simple épisode de protectionnisme ou bien le signe d'un basculement plus profond, une grille de lecture héritée des débats du mouvement ouvrier et de Rosa Luxembourg suggère que les crises du capitalisme et leur résolution ne sont pas des accidents mais des moments récurrents de son histoire. Oui, c'est aussi, on sait bien, les crises, des moments où, ma foi, le fascisme, eh ben, il peut arriver, évidemment, à tout moment. La semaine prochaine, le 27 septembre, nous parlerons de 2 films qui, pour moi, sont des films importants. Un simple accident de Jafar Panahi, qui sort le 1er octobre, et la mort n'existe pas, de Félix Dufour-Lapeyrière, qui sort également le 1er octobre. Et puis, nous recevrons à nouveau Martin Barzilai pour son bouquin, publié par Libertalia et Orient 21, « Nous refusons de dire non à l'armée en Israël ». Et ça, je pense que c'est un sujet très important. La préface est d'Eyal Sivan. Ce sera en présence de Martin Barzilai et également en compagnie, et je suis ravie de pouvoir le recevoir donc samedi prochain, Jean Stern. Vous vous rappelez Jean Stern, celui qui avait fait le pink washing dans l'armée israélienne, qui se vantait évidemment d'être la seule armée au monde d'accepter des homosexuels. Voilà, très important également, c'est que nous continuerons le débat entamé dans les Chroniques Rebelles, nous continuerons le débat à Publico à partir de 16h30 avec Martin Barzilai. Je rappelle donc que ce livre, nous l'avons traité avant les vacances, mais que bien sûr, on n'a pas pu parler de tout parce que c'est un film, ça pourrait être un film. C'est un livre très très dense et quelque chose de très important à dire, surtout en ce moment avec ce qui se passe en Palestine, que ce soit en Cisjordanie, évidemment dans la bande de Gaza, où là, ils n'en peuvent plus. Ils veulent construire la fameuse zone de vacances là pour sur les corps et les gens assassinés. Vraiment, on n'arrête pas le progrès de la déchéance et de la déshumanisation. Donc très très bonne semaine quand même, et bien sûr comme d'habitude, oh ben on est même en avance, dis donc. Eh ben tenez bon.
Vous écoutez la voix sans Dieu ni maître.
Radio Libertaria, unde non aginta quatuor megahertz.
Radio Libertaire, 89.4.
Noli oble whisky cartulam auditoris emere.
N'oublie pas d'acheter ta carte d'auditeur.
Ut nos pecunias sustineas.
pour nous aider financièrement. Cette carte coûte 120 euros.
Quame me repotes in libraria libertari mundi taberna.
Tu peux l'acheter à la librairie du monde libertaire.
In domo quentesima quadragesima quinta via Amelot.
Au 145 rue Amelot.
Quacum cartula minoris solues pro quibus dam spectaculis.
Avec cette carte, tu paieras moins cher certains spectacles.
Alisque rebus attractivis.
Et autres attractions.
Radio Libertaria, sediosissima ex omnibus.
Radio Libertaire, la plus rebelle des radios.
Ainsi le vieux menteur a quitté le pouvoir. Et le peuple souverain, appelé à voter, a choisi Liz Nogood, le teigneux à l'œil noir, pour marcher à sa tête, pour le représenter. Et le peuple souverain, chapeau la clairvoyance, par sa majorité librement exprimée, l'a jugé respectable et méritant confiance, et digne qu'on le suive, et digne d'être aimé. Douce France. Ainsi le Matamor et ses rodomontades se retrouvent enfin calife, des années qu'il se pousse, qu'il intrigue et grenouille, planqué en embuscade, prêt à tout pour devenir le premier d'entre tous. C'est une vie d'ambition qui est couronnée ici, marquée par le mensonge et le mépris des lois, où la trahison est une pratique établie, où les promesses n'engagent que celui qui les reçoit. Douce France! Le familier des salons milliardaires, le partisan de toujours des inégalités, l'empêcher d'entrer dans les quartiers en jachère par un tour de passe-passe, hop là, aurait changé, dissimulant ses crocs, le voilà qui se pose en héritier des justes, en agneau patelin, à peine s'il porte pas à son revers une rose, et le public baba applaudit des deux mains. Douce France! Ainsi dans le camp d'en face, les éléphants barissent et poussent des cris de baronne effarouchée, alors qu'ils sont semblables et compères et complices, plus une once d'audace, plus l'ombre d'une idée, et les ondes flagornent et la presse est muette, je veux dire qu'on y voit guerre d'indignation. Ça n'a rien d'étonnant, puisque toutes les gazettes, ou quasi, appartiennent aux marchands de canons. Douce France! Ainsi les renégats viennent à la gamelle, sans vergogne à la soupe, les plats en rang serré, arrivistes et faux culs se ramassent à la pelle, le spectacle est superbe en même temps qu'à pleurer, et le cow-boy obtus dans sa marche à la guerre, bénissant le dieu bon compte un allié de plus, pleurer les démunis, crever les pauvres hères, voici le temps des brutes, le temps des parvenus, la pauvre consolation que l'on pourrait avoir, mais je ne sais s'il y a lieu de rappeler ça, c'est que si le peuple est encore un couillon dans l'histoire, un cornard, un cocu, un porteur de grands bois, il l'est pour cette fois, pas tout seul dans ce cas. Douce France.